Écho d'ici, écho d'ailleurs. Dominique Maillard, Nicolas Benita.
Bienvenue dans l'émission qui décrypte les rouages de l'économie mondiale. Au son des cigales pour un numéro spécial démographie aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ce samedi, Écho d'ici, Écho d'ailleurs installe ses micros là où se retrouvent chaque année les experts, les amis du Cercle des économistes. Ses membres, un vivier d'enseignants, de chercheurs français, apprécient ce moment convivial juste avant la pause estivale. Ils viennent confronter leurs analyses, leurs propositions à celles des décideurs politiques, à celles des patrons. Et bien sûr, à celles d'autres experts venus du monde entier ou présents virtuellement. Organiser cet événement avec des invités et un public en chair et en os, c'est une prouesse et une chance au temps du Covid. Alors on est ravis d'être ici. La pandémie, bien sûr, est présente dans tous les esprits. Elle a bouleversé les politiques économiques, les théories parfois, mais aussi les perspectives. La France, par exemple, à regarder en face ceux qui se font d'ordinaire discrets, les vieux, les premières victimes du Covid. Et puis ensuite, le projecteur a été déplacé vers les jeunes, touchés par les conséquences psychologiques et économiques des confinements successifs. La pandémie a aussi provoqué un baby flop mondial. En 2020, la natalité a baissé alors que le vieillissement de la population se confirme en France comme dans la plupart des pays occidentaux. Comment répondre à ce défi démographique? Quelle incidence sur le régime des retraites, sur l'emploi, la productivité, sur la migration, sur les inégalités entre les générations? Toutes ces questions ont été abordées vendredi à Aix avec certains de nos invités et ils sont avec nous dans ce studio en plein air, juste à côté du café éphémère des rencontres d'Aix, pour répondre à toutes ces questions. Hervé Lebras, bonjour. Alors, vous êtes démographe, membre de l'Institut national des études démographiques. Et puis, à mes côtés, Hippolyte Dalbis, bonjour, l'économiste du Cercle, et vous êtes aussi vice-président du Cercle, spécialisé dans les questions de démographie. Philippe Aguillon, également membre du Cercle des économistes, professeur au Collège de France, membre aussi de la commission des économistes chargée par le président Macron de penser l'après-Covid. Philippe Aguillon qui vient dans cette émission avec une analyse de la situation et dans sa besace d'économiste des solutions. Et puis Hakim El-Karaoui, essayiste, consultant du cabinet Brunswick et souvent poil à gratter sur les questions ultra sensibles de la migration. Bonjour, merci d'être avec nous. Les baby-boomers, nés en 1945, c'est-à-dire après la fin de la Seconde Guerre mondiale, auront 85 ans en 2030. Les 75-84 ans étaient 4 millions en 2020, ils seront 2 millions de plus en 2030, et on ne parle que de la France. Le vieillissement, c'est un fait mondial, Hervé Lebras.
C'est un fait mondial qu'il faut un peu tempérer dans la mesure où on le compte démographiquement. Donc on dit c'est les personnes de 60 ans et plus, ou alors de 65 ans et plus, et puis maintenant on monte, quelquefois c'est le quatrième âge, 75 ans et plus. Or, l'état de santé, les possibilités qu'ont les personnes à un âge donné ont énormément varié dans la période récente et même sur un plus long terme historique. Quand vous prenez l'ancien régime, on était très vieux à 50 ans. Quand vous prenez plus près de nous un livre qu'a écrit au sortir de la guerre de 1939-45 Alfred Sauvy avec Robert Debré, il y a un chapitre sur l'invasion des vieillards. Et les vieillards, c'est personne de plus de 60 ans. Bon. Donc maintenant, justement, on parle plutôt du quatrième âge. Donc il faut, je crois, plutôt prendre des quantités plus réelles, c'est-à-dire regarder du côté des personnes actives ou inactives, regarder aussi du côté, par exemple, des coûts de santé selon l'âge, et aussi, au lieu de regarder selon l'âge, regarder ce qu'on fait de plus en plus selon la date à laquelle on meurt. Et c'est là qu'on voit que ce qui compte beaucoup plus, c'est l'âge la distance qui nous sépare de la mort que la distance qui nous sépare de la naissance.
Alors Hippolyte Dalbis, ce vieillissement qu'il faut relativiser, comme nous l'a bien expliqué Hervé Lebras, il a tout de même des conséquences économiques concrètes qui pèsent sur les Français en termes de logement, de retraite, d'emploi, de formation.
Bah oui, la démographie joue sur toutes ces variables, hein, et elle joue évidemment tout d'abord sur la capacité d'une économie à créer des richesses, d'accord ? Parce que ce sont essentiellement des personnes d'âge actif qui créent les richesses, et ces richesses après vont être distribuées aux plus jeunes et aux plus âgés. Alors, comme le disait Hervé Lebras, éventuellement les bornes d'âge peuvent varier au cours du temps. D'ailleurs, je dirais qu'on reste jeune un peu plus longtemps parce que finalement on fait des études plus longues, et il ne faut pas oublier qu'au sortir de la guerre, il y avait seulement 10% voyez, d'une classe d'âge qui était bachelier. Maintenant, c'est beaucoup plus. Alors voilà, donc on repousse le temps pendant lequel, je dirais, on est jeune. Et puis après, on rentre dans cette vie active et on contribue non seulement à financer la jeunesse et aussi à financer les plus âgés. C'est pour ça que, voilà, si on veut aller directement sur des sujets politiques, les questions, par exemple, d'âge à laquelle on prend sa retraite sont cruciales.
Bien sûr, on va en parler. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur une expression qui est devenue à la mode, qui s'est répandue dans le monde entier, celle de « OK Boomer ». Bon, tout le monde connaît les baby boomers, cette génération a priori à qui tout sourit. Depuis quelque temps, en réaction, leurs petits-enfants, qui ont aujourd'hui des conditions de vie a priori plus satisfaisantes que leurs aînés, sont en fait assez amers. Et une expression résume sur ras-le-bol « OK Boomer », c'est la réponse qu'a faite une jeune députée australienne, agacée par les leçons d'un élu plus ancien. Cet OK Boomer, est-ce que c'est une version globalisée de cet éternel conflit de génération, ou bien l'indice d'un malaise plus profond ? Notre reporter, Ariane Gaffuri, a posé la question autour d'elle, en région parisienne.
Bonjour. Nous entrons chez Jenny, une juriste à la retraite de 71 ans, un baby-boomer.
J'ai une génération heureuse.
Catherine Giraud, 70 ans, 3 enfants, 7 petits-enfants.
C'est vrai que nous avons vécu les 30 glorieuses. Hein. Mais on a vécu aussi des périodes des années 70 avec les chocs pétroliers, le chômage, le sida. Enfin, on a vécu des choses assez difficiles. Et puis on a surtout, en 68, avons été en révolte.
Okay, boomer. Boom, boom. I want you in my room.
Un barbecue entre jeunes dans un jardin de la banlieue parisienne. Juliette, Léna, Louise, Tiffany ont entre 21 et 25 ans. Alors, OK Boomer, qu'est-ce que ça veut dire ?
OK Boomer, c'est une réaction quand quelqu'un nous fait une réflexion sur nos choix dans notre vie et quand ils sont pas d'accord avec ce que nous on fait et que nous on n'a pas envie d'argumenter. Et la réponse facile, c'est OK Boomer.
Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a un décalage entre votre génération et celle des boomers ?
Oui, il y a un décalage en termes d'idéaux, de mode de vie. L'âge auquel on se marie aujourd'hui, l'âge auquel on va avoir des enfants, l'âge auquel on va commencer sa vie. Je crois qu'il y a la plupart des jeunes adultes habitent chez leurs parents beaucoup plus tard. Parce que justement, c'est dur de trouver un logement, c'est dur de devenir indépendant par rapport à ce qui se passait il y a 50 ans.
Il y a la crise économique. Est-ce que je vais avoir un emploi stable plus tard ? Est-ce que nous, on aura une retraite, par exemple, parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans les caisses ?
OK, boomer !
Mais voilà. Alors, un emploi qui se fait désirer, on l'a entendu, un logement qui est trop cher, une retraite incertaine. Cette plainte de la jeunesse, elle est lancinante, Hakim El Karaoui. C'est un de vos chevaux de bataille, l'idée de la génération sacrifiée.
Oh, j'irai pas jusque-là, parce que je pense que on a des systèmes sociaux fondés sur la solidarité entre les générations. Ça veut dire quoi, la solidarité entre les générations ? Ça veut dire qu'il y a une génération qui paye pour l'autre. Et pourquoi elle le fait ? Parce qu'elle sait que la génération d'après fera la même chose. Aujourd'hui, on a un problème, effectivement, avec les baby-boomers, qui est très simple. Ils ont été très nombreux, et ils ont eu beaucoup moins d'enfants que leurs parents. Comme les grands paramètres n'ont pas changé, on se retrouve avec un système où, jusqu'à présent, ils profitent énormément de la situation et ils vont laisser à leurs enfants, c'est-à-dire nous, une dette financière et climatique colossale. Et au lieu de faire des réserves comme ils auraient dû le faire, on avait créé il y a 20 ans le fonds de réserve des retraites, il aurait dû être abondé à hauteur de 150 milliards d'euros aujourd'hui, il y a 27 milliards. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Leurs revenus sont supérieurs aujourd'hui à ceux des actifs. Et quand on dit peut-être qu'il faudrait faire autre chose qu'augmenter la durée de cotisation et mettre aussi à contribution les retraités, et notamment baisser leurs pensions, sachant que dans 10 ans, les pensions vont commencer à baisser. Là, on a un tir de barrage qui témoigne d'un égoïsme générationnel absolument extraordinaire.
Hippolyte Dadbis, vous estimez au contraire que, en fait, cet écart, ce déséquilibre n'est pas si important que ça?
Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué, vous voyez, de reprocher à une génération d'être nombreuse. Parce que typiquement, ils y sont pour rien. Donc, alors évidemment, comme ils sont plus nombreux, il faut avoir en tête, pour la France par exemple, un minimum de chiffres. Hein, vous voulez pas trop de chiffres, je ne vais pas vous en donner trop, mais vous voyez, il y avait 900 000 naissances après la guerre, et pendant la guerre, il y avait quelque chose comme 450 000, d'accord. Et puis la fin des années 30 est aussi un moment où vous dire, la situation n'est pas bonne, donc les gens avaient peu d'enfants. Donc en effet, donc, il y a beaucoup de gens qui sont nés après la guerre, et ça a duré assez longtemps. Ça a duré, vous voyez, jusqu'en 73 à peu près. Donc c'est pas un boom, c'est pas un choc, c'est un choc long. D'accord. Donc voilà, il y a des classes nombreuses et qui sont remplacées par des moins nombreux. Alors, l'expression « ok, boomer », je peux pas dire que je l'aime beaucoup. Alors, peut-être que le député à qui on l'a renvoyé était un petit peu condescendant, et peut-être qu'il le méritait, vous voyez. Mais je trouve que ça, c'est mettre un peu fin à la discussion. Quand on dit « ok, boomer », ça veut dire « je veux même plus te parler ». Et ça, c'est dommage, et c'est dommage lorsqu'on a des relations intergénérationnelles qui sont comme ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on finance finalement les retraites, la santé des baby-boomers? Ben, on le fait via des prélèvements et via, aujourd'hui, mais pas que, et aujourd'hui essentiellement par ceux qui travaillent. Et mon sentiment, c'est que plutôt que de baisser la retraite des personnes qui sont âgées, parce que c'est une décision qui est compliquée, donc je la souhaite pas. Personne n'a envie d'avoir son revenu qui baisse, ni un actif, ni un retraité. Donc, plutôt que baisser sa retraite, je préférerais qu'on augmente le taux d'emploi, voyez, de la population qui est d'âge actif. Et il y a encore des marges de manœuvre qui sont considérables. Près de la retraite, il y a trop de gens qui sont sans emploi ou qui ne participent pas, et je pense que c'est pas une bonne chose, parce que comme l'a dit Hervé, ils sont encore jeunes. Et puis il y a aussi l'autre réserve entre guillemets qui est l'emploi féminin. Hein, les taux d'emploi des femmes restent beaucoup plus faibles que ceux des hommes. Et voilà. Et donc.
Alors que la France est un pays européen où ce taux d'emploi féminin est tout de même assez élevé.
Aux âges actifs, oui. Alors oui.
Surtout par rapport aux pays méditerranéens.
Et par rapport à l'Allemagne, mais pas par rapport à la Suède, typiquement. Et donc, il y a des marges de manœuvre.
Mais là, ils viennent de faire prendre une réforme intéressante sur le congé de paternité. Je trouve qu'il va dans la bonne direction. Pour davantage, parce que souvent, on n'embauche pas les femmes parce qu'on pense qu'elles vont pas, voilà, que s'il y a un problème, une naissance, eh ben, elles ne pourront pas. Le congé de paternité aide à pérenniser l'emploi féminin.
Donc, il y a plein de choses.
D'ailleurs, on est très loin de ce que font les Suédois encore. Là, on a fait un petit pas en avant, mais on a encore beaucoup à faire pour être au niveau suédois. Hein.
Oui, si je peux.
Niveau suédois, c'est 6 mois, hein, le congé paternel.
Si je peux ajouter sur la question du travail, de l'activité féminine, j'avais d'ailleurs montré ça dans une session précédente des entretiens d'Aix. Quand on calcule non pas la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans dans la population de plus de 20 ans, mais quand on calcule la proportion d'actifs parmi les personnes de plus de 20 ans, elle n'a pas bougé depuis pratiquement 40 ans du fait de l'entrée en activité des femmes. Et je dis souvent, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le système de retraite a été sauvé, parce que ces femmes, en entrant en activité, ont cotisé et beaucoup moins partaient à la retraite. Donc ça montre exactement ce que disait Hippolyte. Il y a des souplesses dans la gestion de l'activité, et ces souplesses effectivement portent sur l'activité féminine. Encore actuellement, on monte à 84% de femmes actives entre 25 et 55 ans, alors qu'en Suède c'est 92 ou 93%, et puis l'âge de départ aussi.
Si on élargit par exemple à ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'avec la pandémie, beaucoup de femmes ont arrêté de travailler, et il y a une grosse question, un gros point d'interrogation sur leur retour. Alors, on ne sait pas encore si c'est un phénomène qui pourrait se produire en France. Vous avez insisté, Hippolyte Dadbis, sur les emplois disponibles, et je voudrais me tourner vers vous, Hakim El-Karaoui, parce que cette situation de conflit générationnel, elle peut être parfois beaucoup plus dense dans les pays arabes notamment, où il y a une population jeune qui est très forte. Et vous êtes franco-tunisien, donc vous connaissez bien le cas de la Tunisie, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les pays du Golfe, où là, il n'y a pas d'emploi pour ces jeunes. Est-ce que là, le conflit n'est pas encore beaucoup plus virulent ?
Alors, c'est un peu différent. Dans ces pays, il y a un paradoxe. Plus on est diplômé, moins on a d'emploi. Et c'est à peu près spécifique au monde arabe. C'est lié moins à un problème de génération, je crois, qu'à un problème de qualité de formation. Parce qu'on a fait de la massification de façon très très rapide de l'enseignement secondaire et supérieur, mais on ne s'est jamais posé la question des débouchés. C'est un peu la caricature du modèle français. On envoie plein de jeunes à l'université, d'ailleurs à peu près les mêmes, des mêmes origines. Ils vont faire des études de sport, ils vont faire des études de sociologie, ils vont faire des études de lettres. On sait très bien que derrière, il n'y a pas d'emploi. Bah, dans le monde arabe, c'est ça, x10, avec 35, 37, 40% de taux de chômage des diplômés. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment lié au problème des générations. C'est lié à la mauvaise qualité de la formation, mauvaise qualité de l'orientation, et puis aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de croissance par rapport notamment à la croissance démographique. Et donc, on a une proportion toujours plus importante de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ne trouvent pas d'emploi. Le résultat, bah, c'est ce qu'on a vu il y a 10 ans, c'est la révolution. Et très sincèrement, je pense que ça va repartir, et notamment avec le Covid. Parce que dans le monde arabe pauvre, d'ailleurs pas que dans le monde arabe, mais en Afrique en général, il n'y a pas eu de soutien public aux économies. En Tunisie, par exemple, on a mis 2 points de PIB, l'État a mis 2 points de PIB de soutien public, quand en France, on était plutôt à 10 ou 12. Le résultat, c'est que le taux d'épargne est à zéro, le taux d'investissement, c'est 10 points de PIB au lieu de 20, et la saison touristique va être catastrophique. Je pense que le pays ne tient pas la route, ne passe pas l'hiver, enfin les institutions. Bon, et ce qui est très frappant, c'est que en Europe, en fait, tout le monde s'en moque. Et moi, je crois qu'il faut comprendre que le Maghreb, c'est l'étranger proche de l'Europe du Sud, et ça devrait être intégré à la zone économique, pas pour des raisons de solidarité, ce serait déjà une bonne raison, mais tout simplement pour des raisons d'intérêt européen. Parce que les pays du Maghreb qui tombent, en fait, ça a des petites conséquences en Europe, notamment en Europe du Sud. Et là, je pense qu'on a une cécité des dirigeants qui est incroyable. On a mis 750 milliards d'euros de soutien européen, 190 milliards en Italie, ça va être 20 milliards d'euros en Sicile. Le PIB de la Tunisie, c'est 45 milliards d'euros, le PIB. Et on a mis zéro en Tunisie. Bon, et au Maroc, zéro. En Algérie, zéro, c'est un peu différent. Donc là, on est face à un risque colossal qui est qu'en fait, le Covid va accélérer les inégalités, la croissance des inégalités à l'intérieur des pays occidentaux, avec ceux qui ont des actifs dont la valeur va augmenter énormément, des actifs boursiers, immobiliers, et puis entre les pays riches et puis les pays à revenus intermédiaires. Et ça va être un facteur d'instabilité géopolitique absolument majeur.
On y reviendra plus tard. On va aussi évoquer, bien sûr, est-ce que la migration peut être une solution. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette question que vous avez abordée. Quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Et dans les pays qui ont encore quelques moyens, eh bien, on pense à un revenu jeune. C'est votre suggestion, Philippe Aguillon ?
Oui, je pense surtout que le Covid a imposé un coût très important à la jeunesse. Je pense que les jeunes ont payé un coût très élevé. Et que l'État doit montrer une reconnaissance. et je ne pense pas que c'est uniquement à cause de ça. C'est que je crois beaucoup qu'il faut pousser l'idée de l'autonomie des jeunes. Je pense que c'est important qu'un jeune, et ça c'est vraiment l'idée danoise, quand on a 18 ans, eh bien qu'on quitte, on a le droit d'abord de vouloir quitter le foyer de ses parents. On doit avoir la possibilité de le faire et de choisir de s'orienter comme on veut. Et donc il faut donner les moyens aux jeunes de pouvoir le faire. Et au Danemark, ils ont imaginé un système, alors c'est depuis les années 70, hein, où on peut, si on est étudiant et on quitte le foyer familial, on touche un revenu de 850 euros par mois. Alors il faut passer ses examens et les réussir. Hein. Si on redouble, on ne peut pas faire indéfiniment des premières années et les rater. Quoi. Donc, ou bien on est en insertion, on touche aussi un revenu ou en apprentissage. Et donc l'idée, ça serait de mettre en place en France un revenu universel d'insertion, mais où il faut travailler, hein, donc où il faut ou étudier, passer ses examens, ou suivre un parcours d'insertion, ou suivre un parcours d'apprentissage, et il y aurait des passerelles entre les trois. Voilà, et je pense, et entre, pour des jeunes au-dessus de 18 ans. Alors l'idée, c'est que si on reste chez ses parents et qu'on est déclaré sur les parts fiscales de ses parents, évidemment, on ne touche pas 800 euros par mois, mais on a possibilité de d'avoir cette autonomie.
Philippe Aguillon, on a beaucoup parlé du « quoi qu'il en coûte ». Cette proposition, c'est aussi « quoi qu'il en coûte ». Est-ce que la France peut le financer ?
Ça coûterait un net. Alors si on veut le faire vraiment comme je le souhaiterais moi, ça coûterait un net de 7 milliards d'euros. Et je pense que si on fait la réforme des retraites, que je pense qu'il faut faire, qui serait une réforme, disons, paramétrique, où on allongerait un petit peu la durée de cotisation, en tenant compte de l'âge où on commence à travailler, de la pénibilité, etc., ça peut dégager à peu près cette somme-là, quoi. Et vous savez qu'également, ce qui vient d'être décidé sur l'impôt minimum va rapporter à la France à peu près 6 milliards par an. Alors tout ça, en état stationnaire, comme on dit, ça va mettre du temps à monter. Mais disons qu'il y a des sources.
Les taxes sur les grandes entreprises, un accord a été trouvé à l'OCDE.
Voilà, donc si vous voulez ça, ce sera des sources. Donc l'idée, c'est qu'il faut poursuivre la réforme de l'État, faire une réforme à un moment donné des retraites. Alors la question, c'est quand est-ce qu'il faudra la faire ? Je pense qu'il faudra la faire en début de quinquennat suivant, parce que je pense qu'il faut faire avaliser par l'élection présidentielle la réforme paramétrique. Mais je pense qu'on a les moyens de financer cette réforme pour les jeunes. Et je pense que ça serait bien, quelque part, que ce soit les gens plus âgés qui contribuent pour les gens plus jeunes qui ont quand même payé un coût très important pendant la crise du Covid.
Tout à fait. Alors j'allais y venir, j'allais vous demander, est-ce que c'est politiquement possible d'allonger la durée du travail en France ? C'est une solution qui est préconisée par la plupart des économistes, mais on voit en même temps que les Français n'y sont toujours pas prêts.
Je vais laisser peut-être Hervé, si vous voulez peut-être commencer,
non,
puis je continue.
Le débat a été perturbé parce qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre, d'une part, ce qui est assez logique, augmenter le nombre de trimestres de cotisation, et puis d'autre part, cette question de l'âge pivot, qui est... C'est deux choses incompatibles, d'une certaine manière. Donc, c'est venu pourrir le débat, et je crois que ça continue de le pourrir, d'après ce que j'entends. Donc, si on abandonne cette question de l'âge pivot, et qu'on vient sur des... Comme on l'a fait, d'ailleurs, dans la réforme précédente, on augmente un trimestre de plus, je crois que c'était
Touraine.
La réforme Touraine, qui est passée, je dirais pas comme une lettre à la poste, mais sans trop de difficultés. Donc là, je comprends pas cette fixation sur l'âge pivot, qui, en plus de ça, est injuste, parce que beaucoup de jeunes commencent à travailler, ceux sans diplôme, très tôt. Donc, ils arrivent à cet âge pivot avec beaucoup plus de... Quand ils y arrivent. Mais je laisse l'économiste peut-être...
Hippolyte Dalvis.
Je pense que c'est des débats qui sont très complexes. Et la question de l'âge de départ à la retraite est source de crispation parce que c'est la dimension du système qui est comprise. Oui. D'accord ? Lorsqu'on va parler après de désindexation ou d'indexation sur l'inflation ou sur les salaires, c'est finalement des éléments qui vont disparaître dans le débat. Alors que lorsque vous dites que vous allez partir à 60 ans, 61 ans, 62 ans, je veux dire, tout le monde comprend, il voit très bien. Et là, forcément, du coup, il y a une espèce de résistance. Après, ce qui est important, c'est que si on repousse cet âge de départ à la retraite, ça veut dire qu'on le repousse pour tout le monde, on peut se dire que ce n'est pas forcément juste pour ceux qui ont commencé tôt. Typiquement, celui ou celle qui est sorti de l'école à 16 ans et qui a commencé à 16 ans, du coup, lui, il va cotiser pour le système plus longtemps. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une espèce de consensus plus parmi les économistes et autour de la table pour dire que la justice, c'est plutôt de prendre en compte le nombre d'années pendant lesquelles les gens ont cotisé et pas se fixer sur quelque chose de...
C'est la durée de cotisation. Si on a commencé plus tôt, on peut partir plus tôt.
Mais dans ce cas, lorsque vous annoncez une réforme comme ça, ça fait moins systémique, ça fait moins « j'ai réformé les retraites et c'est peut-être pour ça que certains gouvernements continuent à discuter de cet âge pivot.
Oui, non, là, vous avez tout à fait raison, Hippolyte, c'est Marcel Gauchet. Et le philosophe dit les Français sont absolument hostiles à ce qu'on touche à l'âge. Et pour une bonne raison, pour eux, dit Marcel Gauchet, c'est la période socialiste de la vie. On n'a plus de patron. On est payé. On a des loisirs et on est encore en bonne santé en général.
Maintenant, un système qui est déficitaire... et il l'est actuellement, donc il est complexe parce qu'il y a beaucoup de régimes, mais lorsqu'il est globalement déficitaire, ça veut dire que demain, ceux qui cotiseront non seulement pour les retraités de demain, mais ils cotisent aussi pour les retraités d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas juste. Oui. Et donc ça, il y a quand même un moment où il faut qu'il y ait une force politique qui dise non, on peut pas avoir un système déficitaire. Et pareil pour le système de santé. Il n'y a pas de raison que ce soit les cotisants de demain, c'est-à-dire les générations futures, hein, cher à Hakim, qui cotisent pour la santé des gens d'aujourd'hui. Je veux dire, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Je veux dire, il peut y avoir de la bonne dette, on peut faire des investissements, mais il n'y a pas de raison.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi deux types de retraités ? Alors, vous parliez aujourd'hui, tout à l'heure, Hervé Lebras, de ce phénomène du vieillissement qui évolue avec le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Edgar Morin, grand penseur français, qui célèbre ce vendredi son centième anniversaire. On a une femme aux États-Unis de 82 ans, Wallis Funk, qui va accompagner Jeff Bezos dans l'espace le 20 juillet prochain. Le rêve continue pour les baby-boomers, mais on a aussi des retraités qui sont en très grande difficulté, qui sont fatigués, qui sont malades. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... c'est pas un impensé de la réforme de considérer qu'il y a quand même des cas de figure très différents.
Ah oui. Il a été fait allusion à la question de la pénibilité.
C'est
essentiel,
absolument.
Parce que les différences d'espérance de vie sont très importantes en France. On a pratiquement, alors selon la manière dont on le mesure, on a au minimum 7 ans entre... quand on regarde à 35 ans, on compare ceux qui à 35 ans sont manœuvres et ceux qui sont dans les vraiment bac plus 5. Mais si on compare en termes de même de centiles de revenus, comme l'a fait l'INSEE, l'écart est encore plus grand. Mais on ne touche pas à ça pour une autre raison, c'est qu'il y a un autre très grand écart qui est celui entre la durée de vie des hommes et des femmes. Alors est-ce qu'on va est-ce qu'on va demander aux femmes de travailler plus longtemps? Il y a une question là qui peut pas être posée.
À faire des enfants.
Je soulève la question, je ne prends pas parti.
C'est encore les femmes qui, la plupart du temps, les portent.
Si on met ça en termes d'âge pivot, c'est toujours une injustice des gens qui commencent à travailler tôt, à faible espérance de vie, parce que c'est un transfert net de ces gens-là vers des gens qui commencent à travailler plus tard, à espérance de vie plus élevée. Donc on ne veut pas. Il faut une réforme paramétrique, mais elle ne doit pas se traduire par une distribution des gens qui sont faible espérance de vie vers les autres. Voilà, c'est ça tout le défi de cette réforme.
Alors, il y a d'autres transferts aussi sur le marché de l'emploi, parce que quand le point de départ de cette émission, c'est de dire la population vieillit, on fait moins d'enfants, donc on est de moins en moins nombreux. Et dans ce cas, il faut... trouver une main-d'œuvre parfois à l'étranger. Avec la pandémie, les Occidentaux ont réalisé à quel point ils sont devenus dépendants de la migration pour les emplois dans les services, mais aussi pour toujours dans les services, dans la santé en particulier. L'immigration est-elle la solution, une des solutions à cette mutation démographique qu'on est en train de vivre ? Le sujet est politiquement brûlant avec le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, incontournable à chaque scrutin présidentiel. Le rejet de la migration est donc devenu un leitmotiv quasiment à travers toute la classe politique. Et pourtant, il y a encore un politique qui voit les choses autrement et qui le dit, peut-être parce qu'il s'exprime pour l'avenir, c'est François Bayrou, le centriste, aujourd'hui commissaire au plan. Il demande aux Français de faire plus d'enfants et aux gouvernants de revenir à une politique migratoire. On l'écoute.
Ce qu'il faut obtenir, c'est une immigration maîtrisée, régulée. Une immigration dont on reprend le contrôle, qu'on ne subit pas, qui n'est pas une immigration devant laquelle nous sommes désarmés. Raison supplémentaire pour laquelle il faut avoir un équilibre des populations. Si vous avez une population qui fléchit du point de vue démographique, alors le monde qui vous entoure et qui lui est en progression, je pense à l'Afrique par exemple, naturellement le jeu des vases communicants jouera.
Et puis maintenant je vous propose d'écouter un extrait de ce que disait Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui était là pour la session inaugurale de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, elle parlait de la mondialisation. Eh bien, Christine Lagarde, quand elle parle mondialisation, elle fait spontanément référence à tous ces migrants qui sont aujourd'hui, qui ont joué un rôle essentiel, notamment dans la découverte du vaccin contre le Covid.
Je voudrais vous citer 4 noms, 5 noms. Deux vous diront quelque chose, trois ne vous diront rien. François Jacob et Jacques Monod. Cela, ça vous dira quelque chose.
Création de la Reine Messager.
Merci. Cataline Caraco.
Pareil.
Oui. 65 ans, émigrée hongroise, travaillant aux États-Unis depuis 40 ans, travaillant sur l'ARN messager. Et puis Ugur Sahin et Özlem Türkçin, qui sont les deux Allemands, émigrés turcs, qui ont mis au point l'ARN messager, qui s'est retrouvé dans BioNTech, qu'on retrouve maintenant dans le vaccin Pfizer, dont beaucoup d'entre nous ont bénéficié, et qui a été une providence absolue. Et je voudrais dire à cet égard que c'est un exemple extraordinaire de mondialisation. Parce qu'ils ont été capables de se déplacer, de bouger, de rechercher, d'être financés, de tirer parti d'une mondialisation intelligente à laquelle il faut qu'on continue à travailler.
Comment est-ce que vous voyez ce futur de la migration, Hippolyte Dalbis ? Est-ce qu'on peut revenir déjà sur l'impact migratoire sur l'économie française, parce que c'est une question que vous connaissez bien. On parle souvent de ces migrants qui coûtent cher. Vous nous dites plutôt l'inverse.
Oui, alors, donc en effet, je travaille sur ces questions. Je pense que lorsqu'on dit les migrants coûtent cher, je trouve que c'est un petit peu biaisé, vous voyez, parce que tout coûte cher. Le fait de l'hôpital aussi, ça coûte cher. Le fait de faire des études, ça coûte cher. Qu'est-ce qui ne coûte pas cher, je veux dire, et je trouve que c'est assez symptomatique, parce que dès qu'on va discuter des migrants, on va mettre en avant leurs coûts et sans prendre en compte éventuellement tous les bénéfices qu'ils peuvent apporter.
Et j'en signalerai un.
Oui, pardon. Et donc, je dirais que le minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est de mettre en balance les coûts et les bénéfices, même si c'est un exercice qu'on peut répugner à faire pour une personne, vous voyez. Mais néanmoins, lorsqu'on le fait, on s'aperçoit que pour la population française, pour la société française, les bénéfices sont plutôt positifs. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que les migrants rapportent de l'argent à la société française qu'il faut accueillir les migrants. Je veux dire, on peut les accueillir parce que pour d'autres raisons, notamment lorsque je pense aux migrants humanitaires, on peut les accueillir parce que c'est notre devoir ou parce que ce sont nos engagements internationaux.
Mais il faut avoir une politique, c'est sûr que je suis pas spécialisé.
Philippe Aguillon, je vais vous donner la parole, mais tout de suite je voudrais donner la parole à Hakim El Karaoui qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet.
Je m'inscris aussi parce que
j'ai fait un rapport pour l'Institut Montaigne qui s'appelle Les quartiers pauvres ont un avenir. Et on a regardé la circulation des richesses et notamment l'argent lié à la protection sociale, donc sur le territoire. Donc on a fait la géographie du financement de la protection sociale. En général, on le fait par génération. Donc c'est pas la démographie, c'est la géographie. Qu'est-ce qu'on a vu ? Quelque chose de très surprenant. À Seine-Saint-Denis, on est à peu près capable de reconstituer le PIB par département, par la masse salariale, par département.
Alors la Seine-Saint-Denis, c'est dans la banlieue parisienne.
Voilà, c'est le département le plus pauvre de France, celui où il y a le plus d'immigrés. Et c'est aussi le plus jeune. Et celui où il y a le plus d'immigrés, il y avait 15% d'immigrés, donc étrangers nés à l'étranger, en 1982 en Seine-Saint-Denis. Et en 2015, il y en avait 30. Dans le même temps, en France, on est passé de 7,5% à 9,2% d'immigrés officiels. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la Seine-Saint-Denis, c'est le 8e département contributeur au financement de la protection sociale. Étonnement, et encore plus grand étonnement, c'est le dernier receveur. Pourquoi ? Parce que la protection sociale, c'est 480 milliards d'euros, 330 milliards de retraite, 160 milliards de santé pour les plus de 60 ans. Donc il y a 500 milliards qui sont redistribués à peu près à 85% financés par les actifs vers les retraités. Et donc en fait, la clé de répartition, de la circulation du financement de la protection sociale, c'est la jeunesse des départements. La Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et par ailleurs, il y a très peu de retraités. Donc ça explique pourquoi la Seine-Saint-Denis est le département qui reçoit le moins de la solidarité nationale. Donc ça illustre, parmi d'autres, le fait que les immigrés rapportent beaucoup. Et par ailleurs, contrairement à ce qu'on croit aussi, la dynamique en Seine-Saint-Denis n'est pas mauvaise. Pourquoi ? Parce que la Seine-Saint-Denis est branchée à Paris. Paris, c'est le département évidemment le plus riche de France. Et ce qu'on voit, c'est que l'ascenseur social ne marche pas, mais l'escalier fonctionne. Et ça se voit comment ? La moitié de la population à Seine-Saint-Denis change en 10 ans. En fait, les gens partent dès qu'ils accumulent un peu de capital. Comment ils accumulent un peu de capital ? Ils travaillent dans les services à la personne, ils travaillent dans la logistique, ils travaillent dans les transports, ils travaillent dans l'hôtellerie-restauration, et ça permet de franchir une étape. Bon. C'est pas parfait, très très loin de là, Mais on a un système qui, un peu comme pour les transferts entre les générations, c'est les pauvres qui payent pour les riches.
Alors, alors pour répondre à la question que de départ qui était, est-ce qu'il faut accueillir aujourd'hui plus de migrants, alors qu'on a par exemple certains hommes politiques français, candidats potentiels à la présidence, je pense à Michel Barnier qui nous dit il faut stopper la migration pendant plusieurs années. Vous, quelle est votre position ?
Bon, j'ai une position très simple, c'est il n'y arrivera pas, personne n'y arrivera. Celui qui est arrivé au pouvoir en disant je vais arrêter l'immigration, c'était Nicolas Sarkozy. Quand vous regardez les courbes, l'immigration a repris quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2003, ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression liée à la croissance démographique dans les pays non occidentaux, il y a l'attractivité des pays occidentaux, et puis il y a deux, trois principes de droit fondamentaux, comme par exemple le droit à une vie familiale normale, où on a le droit de vivre avec son conjoint. Et puis, dans les 270 000 migrants, il y a 90 000 étudiants. Et puis, il y a un peu d'immigration de travail, un peu d'immigration familiale, etc. Donc, il y a en fait très peu d'immigration. Le sujet, c'est plutôt le stock des immigrés. Et les Français confondent les deux. Quand on regarde les immigrés à deux générations, là, on est à 22% de la population. Donc là, on a une part importante.
Hakim El Karaoui, merci. Je vous libère parce que je crois que vous avez un rendez-vous, à moins que vous vouliez bien rester avec nous encore quelques instants.
D'accord, merci, très bien. Infiniment.
Je voudrais Hervé Lebras.
Oui, quelques remarques. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit Hakim, mais deux remarques supplémentaires. Hakim a parlé des immigrés, mais la migration, d'un point de vue, je pense, d'économiste, il faut tenir compte de l'immigration et de l'émigration. C'est le solde qui compte. Or, le solde, les Français l'ignorent, mais il est faible en France. Il est faible parce que, la dernière année pour laquelle le compte a bien été fait, qui est 2018, on a en solde des étrangers qui arrivent en France régulièrement, on a 200 000 personnes. Mais le solde des Français qui partent à l'étranger, c'est moins 130 000. Donc le résultat global, c'est 70 000 personnes. 70 000, c'est 1 pour 1000 de la population. Donc c'est beaucoup, on vous cite toujours le chiffre de 270 000 cartes données par le ministère de l'Intérieur. Mais le vrai chiffre, je pense, économique important, c'est celui de 70 000, c'est le solde. Alors bien sûr, ceux qui arrivent et ceux qui partent ne sont pas les mêmes. Mais on fait semblant de dire que ceux qui partent, on ne les appelle pas des immigrés, on les appelle des expatriés. Ils reviendront, hein. Mais ils reviennent, beaucoup ne reviendront pas. Les Tunisiens, Hakim n'est plus là, mais les Tunisiens comptent effectivement leurs immigrés en France comme des expatriés et font le même raisonnement que les Français, ils reviendront. Puis j'ai un second point qui est plus une question pour les économistes, mais qui m'a toujours un peu troublé. Un des avantages économiques de l'immigration, c'est l'immigré arrive à l'âge de, en moyenne, 25 ans en France. Mais on n'a pas du tout payé son éducation, on n'a pas payé, donc on devrait compter comme terme, quand on fait une comparaison, on devrait dire, par coût d'opportunité, si il avait fallu avoir un Français à la place jusqu'à l'âge de 25 ans, ça aurait coûté très cher. Alors il y a des questions de niveau d'études, mais de plus en plus les immigrés qui reçoivent une carte de séjour ont un bon niveau d'éducation. C'est d'ailleurs, ça correspond à ce qui était dit à propos de l'éducation dans les pays, notamment dans les pays du Maghreb. Mais je me demande si les économistes seront d'accord avec mon
Philippe Aguillon, alors vous voulez réagir à Hervé Lebras ou est-ce que vous aviez quelque chose à dire sur le thème de la...
Oui, je pense qu'effectivement ces coûts ne sont pas pris en compte et puis enfin, en tout cas, il y a eu des études récentes qui montrent. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'innovation et la croissance. Et donc, je regardais les États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis. Et l'immigration joue un rôle très important parce que les gens qui immigrent, d'abord, c'est des gens qui prennent des risques, c'est des gens qui sont très malins parce que pour immigrer, pour arriver à surmonter tous les obstacles, c'est des entrepreneurs. Et en général, c'est des gens très dynamiques pour l'innovation. Ouais. Donc, le tout, c'est de canaliser cette énergie et de vers l'innovation, vers la production de richesses. Et donc je pense que notre politique, la réaction de dire pas d'immigration, c'est une réaction stupide. D'abord, on est tous des immigrés, moi je serais pas là. Ma mère elle a créé Chloé. Ma mère elle a créé Chloé et ben voilà, il y aurait pas eu Chloé et donc voilà, donc
oui, célèbre
donc,
Marc.
Donc Zemmour et tout ça. Zemmour et tout ça au panier tout de suite, hein. Nul. Voilà, hein, d'accord. Nul
de même est un immigré
voilà.
D'ailleurs.
Et donc voilà, donc si vous voulez et tous les grands et plein de gens qui étaient des grands noms sont des immigrés en France, je veux dire voilà, qui ont Zola, Gambetta, c'est des c'est toute l'histoire de France. Donc c'est une aberration. Non, ce qu'il faut par contre, c'est d'avoir une politique d'immigration intelligente avec investissement. Et je crois que plus généralement, il y a d'abord la politique vis-à-vis des migrations, il y a la politique dans les banlieues, il y a la politique dans les... Et il faut une politique, il faut que la République revienne. Voilà, je fais un peu du chevènement nouvelle mode, mais c'est qu'il faut, il faut vraiment investir. Voilà. Moi, je suis pour le développement d'externats d'excellence, notamment dans la Seine-Saint-Denis, dans ces zones-là, partout où les parents ne peuvent pas aider vraiment leurs enfants à faire leurs devoirs. Je suis pour des écoles où les enfants restent, prennent les deux repas à l'école, ont des tuteurs, font les devoirs à l'école, l'accent est mis sur les matières de base et la discipline, et ils font du sport. Voilà, moi je pense que ça, il y a eu ce qu'on appelle les No Excuse Charter Schools aux États-Unis qui ont donné de très bons résultats. Et je pense qu'il faut faire un gros investissement dans cette direction. Voilà, je crois que l'immigration est une force si je sais investir comme il faut.
Oui, Hakim El Karaoui nous parlait de l'escalier. Vous voulez un ascenseur ultrasonique hyper rapide.
Alors ça veut dire qu'on peut pas prendre. Il faut avoir une politique évidemment intelligente. Combien on peut prendre, combien. Voilà, ça veut dire qu'aussi on décide. C'est pas avant peut-être des quotas, mais on décide de combien on peut accueillir. Mais on investit à fond dans ce qu'on peut accueillir. Vous voyez, je suis pour une politique de véritable investissement. Et je crois que si on le fait de cette manière-là, alors on a la bonne approche. Parce que quand on le fait comme ça, c'est des ressources formidables. Des personnes qui émigrent et qui arrivent à s'insérer et dans lesquelles on investit, c'est celles-là dont les études ont montré que ça donne des gens qui participent formidablement au développement de l'économie.
Hippolyte Dalbis.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est important pour une société et puis c'est important pour ces populations qu'on rappelle qu'il y ait des immigrés qui ont fait la France, vous voyez, et puis bravo à la maman de Philippe, etc. Et c'est vrai qu'il y a des personnes illustres. Le scientifique le plus illustre parmi tous les Français, c'est une scientifique et c'est une étrangère, vous voyez, c'est Marie Curie. Et il y a 130 ans, elle est venue s'inscrire pour la première fois à la fac à Paris. Bon, mais il n'y a pas que ça dans la migration. Et moi, ce qui me gêne un tout petit peu, finalement, dans cette célébration, c'est qu'on en finit, et il y a beaucoup d'organisations qui finissent par agir comme ça, à recommander exclusivement ce type de migration. Et d'encourager des politiques qui sont qui prennent différents noms, mais qui deviennent des politiques un petit peu sélectives, vous voyez. Et donc, on veut attirer les cerveaux. Et j'ai l'impression qu'on minore aussi la contribution de ceux qui n'ont pas été célèbres, n'ont pas été fantastiques, mais qui ont quand même contribué. Et je dirais que justement cette crise Covid, vous voyez, où vous aviez ces dames dans les EHPAD, etc., qui venaient des pays d'Afrique du Nord, eh bien, elles ont été utiles. Et je dirais qu'elles sont tout aussi admirables et tout aussi à célébrer. Et en plus, leur contribution est potentiellement non seulement importante humainement, mais aussi et économiquement. Je vais m'expliquer. Souvent dans le débat, on considère que vous voyez que rapatrier la famille, hein, le regroupement familial, c'est quelque chose qui est coûteux. Mais en fait, non. Parce que qu'est-ce qui se passe, hein, vous voyez, quand une personne fait venir sa famille? Eh bien, à partir de ce moment-là, il ne renvoie plus d'argent dans son pays d'origine. Parce qu'avant, il avait son salaire, hein, il ou elle avait son salaire, et envoyait, vous voyez, c'est les remittances, et renvoyait, c'est le transfert, pardon.
Les transferts de la diaspora.
Voilà, c'est les transferts de la diaspora.
Qui sont très, très importants pour les pays en développement, plus importants que l'aide publique au développement.
Donc, certes, ils sont importants pour ces pays-là, mais vous voyez, mais du point de vue du pays d'accueil, à partir du moment où la famille est venue, eh bien, il n'y a plus ce transfert. Et donc, l'argent est réinvesti dans l'économie. Et donc, moi, je pense que c'est très important d'avoir une approche, certes de rappeler qu'il y a eu ces personnes exceptionnelles, mais d'avoir une approche qui soit plus englobante. Et je dirais que, vous voyez, les personnes exceptionnelles, elles ne veulent pas forcément, a priori, venir chez nous. Et un discours qui est globalement anti-migrant, et notamment anti-migrant non qualifié, ne fait pas venir, n'est pas attractif. Ne fait pas de vous un pays attractif.
Et c'est bien. On devient un pays déclinant, du coup. Et quand vous voyez les pays qui croissent, regardez le Japon. Le Japon, c'est typique. C'est un pays qui n'accueille pas d'immigration, ça vieillit. Et les gens vieux n'innovent pas, parce que c'est les jeunes qui innovent, c'est les gens qui prennent des risques. Et du coup, le Japon est un pays qui ne croit plus, alors que les États-Unis continuent à croire, parce que les États-Unis n'ont jamais fermé le robinet d'immigration.
D'accord, il faut garder la porte ouverte.
C'est absolument, mais investir, être proactif.
D'accord, merci à tous les quatre. Hervé Lebras, Hippolyte Dalbis, Philippe Aguillon et Hakim El Karaoui. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe des rencontres économiques d'Aix qui nous ont facilité le travail, en particulier Thibault et Anaïs. On se quitte en chansons avec les rappeurs McFly et Carlito. Leur son OK Boomer, c'est spécialement pour vous, Hippolyte Dalbis, a fait un carton l'an dernier. Merci bien sûr à Nicolas Benita, le chef d'orchestre de cette émission en plein air. Encore une info pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus, eh bien vous pouvez suivre en direct les rencontres économiques d'Aix sur Internet jusqu'à dimanche soir. Vous pouvez aussi les retrouver en différé. Cette émission consacrée au vieillissement est dédicacée à un très jeune retraité, Jean-Pierre Boris, qui jusqu'à la semaine dernière a animé avec rigueur et passion Éco d'ici, Éco d'ailleurs pendant 7 ans. Jean-Pierre, si tu nous écoutes, je te souhaite un très bel été. Tu as de très très belles saisons devant toi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, consacré à la révolution du Bitcoin.
OK Boomer, l'expression envahit le web depuis quelques jours. Alors si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, eh ben, c'est parce que vous en êtes un Boomer.
Ils savent plus quoi inventer. De toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui. Nous, de notre temps, on se plaignait moins.
Les jeunes d'aujourd'hui, leur musique, c'est que du boom boom.
OK Boomer.
Toujours la tête dans leur smartphone, savent même plus que c'est qu'un bouquin de mon temps. On savait faire la fête, fête.
OK Boomer.
Faut des bonnes notes à l'école pour réussir sa vie. Être allergique au gluten, c'est à la mode, mode.
OK Boomer.
C'est à cause des jeux vidéo que les jeunes d'aujourd'hui sont violents. Un enfant, c'est un papa, une maman.
OK Boomer.
Allez, c'est parti mon kiki.
Oh. OK Boomer.
OK Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. OK Boomer, dans tes boomers, viens chercher bonheur. OK Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Rien que ta peur, change les mœurs, trouve-toi une victime ailleurs.
Ils veulent quoi les vegans, ils veulent qu'on bouffe de l'air.
OK Boomer.
À l'époque de Coluche, on savait rigoler. Les meilleurs Star Wars, ça reste les premiers.
OK Boomer.
C'est pas avec tous ces tatouages que tu vas trouver un taf.
Moitié de visage sur le FaceTime, publication sur Facebook. Moitié de visage sur le FaceTime, adresse AOL pour toujours. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas comprendre, t'es trop jeune.
Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. OK, Boomer.
OK, Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. OK, Boomer, dans tes boomers, viens chercher bonheur. OK, Boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Rien que ta peur, change les mœurs, trouve-toi une victime ailleurs.
OK, Boomer. Okay, Boomer.
La classe à Dallas.
Okay, Boomer.
En avant Guingamp.
Okay, Boomer.
A plus dans le bus.
Okay, Boomer.
Y'a plus de saison.
Okay, Boomer.
En bas laissé peser.
Okay, Boomer.
Papy guédé hanneton.
Okay, Boomer.
Cool Raoul.
Okay, Boomer.
J'ai dit cool Raoul.
Okay, Boomer. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas comprendre, t'es trop vieux.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
T'abuses bien là.
Oh ouais.
Non. Vous avez quel âge?
Je suis trop vieux pour vous, moi.
Le débat africain.